Henri Housset, Théodora, à Victorien Sardou. Chapitre 1. À entendre Montesquieu et tous les historiens occidentaux s'indigner contre le despotisme, la dégradation, le tissu de crimes et de perfidies de l'Empire d'Orient, on croirait que les peuples de l'Occident avaient alors recouvré les vertus de l'âge d'or, sous le règne de la justice et de la liberté. Or, quel tableau présente l'Occident pendant ce VIe siècle où vécut Justinien? C'est la barbarie dans sa plus affreuse expression, la barbarie qui a perdu ses mœurs simples et ses quelques vertus au contact des races qu'elle a vaincues. Ce sont tous les excès de l'état sauvage combinés avec tous les vices d'une civilisation finissante. C'est partout le désordre, l'arbitraire, la violence, la dissolution morale, la misère publique. Chacun tremble pour soi au milieu de cette anarchie, depuis le souverain jusqu'au dernier des vassaux. Les rois sans autorité à l'égard de leurs chefs de guerre, dont ils craignent les conspirations ou la révolte, sont sans pitié pour leur peuple. Tandis que les leux de francs ne daignent s'astreindre qu'à des contributions volontaires et que les ecclésiastiques menacent le roi de la colère céleste s'il touche au bien du Seigneur, la masse de la population, lites germains, colons romains, vassaux gaulois, sont accablés d'impôts, de redevances, d'exactions. Quand Chilpéric donnait ses ordres aux agents du fisc, il avait coutume d'y ajouter cette recommandation « Si quelqu'un contrevient aux ordonnances, qu'on lui arrache les yeux !» Lorsque les rois et les leudes voyageaient avec leur suite, ils n'emportaient point de vivres. Les réquisitions, souvent le pillage, nourrissaient bêtes et gens. On enlevait les bestiaux, on brûlait les chaumières. Il n'y avait pas plus de sécurité pour les personnes que pour les biens. Des ambassadeurs d'un Visigoth d'Espagne étant venus demander en mariage pour leur maître la fille d'un roi de Neustrie, celui-ci ordonna que la maison de la jeune princesse fût formée par réquisition. On arracha de leur demeure un grand nombre de personnes. On sépara le père du fils et la mère de la fille, dit Grégoire de Tours, et la désolation était si grande qu'on pouvait la comparer à celle de l'Égypte. Plusieurs individus se pendirent de désespoir. Et l'on n'agit point ainsi, remarque le bon chroniqueur, seulement envers des gens de condition servile. Beaucoup des victimes de cette violence étaient de la meilleure naissance. Multi, vero, meliores, natu. À la façon dont étaient traités les hommes libres, on peut juger de la condition des esclaves, encore nombreuses à cette époque. Le divertissement favori de Rocking, duc d'Austrasie, consistait à ceci. Il forçait les esclaves, qu'il éclairait pendant son souper avec des torches de résine, à éteindre ces torches en les serrant entre leurs cuisses nues. Les torches éteintes, il les faisait rallumer, puis éteindre de nouveau par le même procédé. Deux amants s'étaient mariés sans le consentement de leur maître, le duc Urcio, et à la prière d'un prêtre, celui-ci avait juré de ne les point séparer. Il les fit enterrer vifs, tous les deux, dans la même fosse. Si un grec du Bas-Empire eût ainsi tenu son serment, quelle occasion pour les historiens d'Occident de flétrir la cruauté et la subtile perfidie des Byzantins. À qui demander justice? Les lois ne manquaient point. Il y avait les lois romaines, les lois ou coutumes des Francs-Saliens, des Burgondes, des Visigoths, des Lombards. Mais cette multitude de lois formait un chaos où les plus habiles jurisconsultes n'auraient pu faire de la lumière. À plus forte raison, était-ce la confusion de la confusion pour les comtes ignorants qui rendaient la justice et qui commençaient souvent les audiences en insultant et en frappant les plaignants. Les formes juridiques n'offraient nulle garantie. La culpabilité et l'innocence s'établissaient à la majorité des témoins qu'aux jurateurs. Il s'agissait donc de produire le plus grand nombre de témoins. On les obtenait, cela va sans dire, à prix d'argent ou par menace. La loi prononcée suivant la qualité des personnes. Si un franc a lésé un romain, dit la loi salique, il paiera 30 sous. Si un romain a lésé un franc, il paiera 62 sous. À l'administration romaine a succédé le plus absolu des ordres. Il y a 100 chefs dans l'État, tirant sur leurs terres et briguant sur les grandes routes, ou plutôt, il n'y a plus d'État. Partout la misère et l'ignorance. On abandonne les lettres et les arts, s'écrie Grégoire de Tours. Toutes les sciences, tous les genres d'instruction dépérissent. les malheureux temps où nous vivons. L'état moral concorde avec l'état social. Les rois donnent l'exemple de tous les crimes et de tous les vices. Leur politique, c'est le guet-apens. Leur diplomatie, c'est la trahison. Leur finance, c'est l'exaction. Leur justice, c'est l'arbitraire. Leur mœurs privées, c'est le concubinat et la polygamie. Les chefs valent moins encore que les rois, et nombre d'évêques ne valent pas mieux que les chefs. Papoulus, évêque de Reims, se montra si oppressif que la majorité des habitants déserta le diocèse. Fronton, évêque d'Angoulême, avait fait empoisonner son prédécesseur afin d'arriver plus vite à l'épiscopat. Cotinus s'enivrait du soir au matin. On conçoit que cette occupation quotidienne l'empêchait de perdre son temps, comme les évêques d'Orient, en de puériles discussions théologiques. Bagdégisile, Sagittarius, Doctégisile, Frodibert, d'autres prélats encore, sont cités pour leurs crimes et leurs débauches. Et ce n'est point une histoire secrète qui les accuse, c'est l'histoire publique. Ce n'est point un Procope, c'est Grégoire de Tours. Opprimée par 7 colonies de pirates anglo-saxons, toujours en guerre entre elles, la Grande-Bretagne souffre les pires misères. La Germanie en est encore à l'état sauvage. Apparemment, ce n'est point chez les Longobards, plus barbares que la barbarie même, chez les Avars ou chez les Alamans, qu'on trouverait des exemples de mœurs douces et d'administration régulière. À la vérité, les Visigoths, qui occupent l'Espagne et le nord-ouest de la Gaule, sont plus civilisés que les Francs. Pourtant, chaque translation de pouvoir provoque des émeutes sanglantes dans les palais et dans les camps, et un roi Visigoth, dont les paroles sont rapportées par Paul Orose, déplore que ses sujets soient incapables d'obéissance aux lois à cause de leur indisciplinable barbarie. L'Italie trouve quelque calme sous la domination de Théodoric, roi des Ostrogoths, mais son royaume, élevé par la force, disparaîtra avec lui. Et quoi qu'il joue à l'empereur romain, Théodoric allait procéder du gouvernement d'un roi franc, témoin odoacre qu'il convie à un festin pour l'y égorger de ses propres mains. Il a les colères féroces d'un vrai barbare, témoin le supplice de Boèce et de Symmaque, mort sur la roue. Quels sont donc au VIe siècle les héros de l'histoire? C'est Chilpéric, c'est Clotaire, c'est Théodoric, c'est Théoda, c'est Alboin. Ce sont encore Théodebert, Sigebert, Bruno, Frédégonde. Tous sont despotes, tous sont parjures, tous sont assassins.